Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, début ce mercredi à Lubumbashi de la 18e édition de la DRC Mining Week ou la semaine minière de la République démocratique du Congo. Cette manifestation qui est organisée une fois l'an rassemble les opérateurs économiques du secteur minier ainsi que les entreprises qui offrent les services aux miniers. La sous-secrétaire adjointe de l'ONU en charge de la question de violences sexuelles commises en période de conflit a visité hier mardi l'hôpital Il Africa de Goma. Cette structure spécialisée dans le traitement des survivants des violences sexuelles fait face à plusieurs difficultés présentées à Madame Pramila Patten. L'invité de ce journal est le responsable du centre de transfusion sanguine de Beni, au Nord Kivu. Docteur Vianney Kambere dénonce l'absence des banques de sang dans plusieurs zones de santé de cette contrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce journal. Coup d'envoi ce mercredi à Lubumbashi de la 18e édition de l'URC Mining Week ou de la semaine congolaise des mines. Placé sous le thème « Reconnaître les triomphes et les victoires de l'industrie minière en RDC sur le terrain et en dehors », ce rendez-vous des opérateurs miniers, au-delà de tout ce qui a déjà été fait, constitue un forum où les participants se remettent en question pour voir l'écart entre ce qui devrait se faire et ce qui est réalisé. C'est ainsi que le président de la Chambre des mines à la Fédération des entreprises dans le Haut-Katanga a mis l'accent sur la sous-traitance, bien que confronté à de nombreuses difficultés. On écoute Louis Watoum dans ses propos recueillis par Jean Gandou.
Le point de vue largement partagé par la communauté des sous-traitants locaux est que les sociétés principales à 90% ne respectent pas la loi sur la sous-traitance, condamnant ainsi les sociétés nationales ou locales à une concurrence déloyale dans laquelle les grands contrats continuent à être gagnés par les sociétés étrangères à leur détriment. Que veulent les sous-traitants? Ils veulent une transparence dans la publication des marchés et l'octroi des contrats. Ils sollicitent une augmentation du portefeuille des marchés attribués aux sociétés congolaises, et ce dans le respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Ils sollicitent également l'octroi des contrats long terme plutôt que des commandes spontanées. Cependant, selon les sociétés principales, du moins celles qui sont disposées à montrer leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises de sous-traitance locales, le train est bel et bien en marche pour la création d'une classe d'affaires congolaise. J'aimerais dire ceci aux sous-traitants, tout n'est pas morose. Il y a un éclairci sur le chemin du long voyage qui conduit à la création des richesses. Quelques bons exemples encourageants sont à citer. Un cas de 2016 à 2023, MM qui est passé de 500 000 dollars à près de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. GEC également est passé de 20 000 dollars à près de 6 millions de dollars.
Au Sud Kivu, le bureau de la société civile exprime des inquiétudes quant à l'avancement des travaux du programme de développement des 145 territoires en province. Des inquiétudes contenues dans un rapport publié hier mardi à Bukavu à l'issue d'une descente sur terrain dans les territoires. Les travaux n'avancent pas et la société civile recommande l'implication des populations locales pour une bonne évolution des travaux. Emmanuel Elamejou Kabedi, reportage.
Le bureau de la société civile du Sud Kivu publie ce rapport après s'être rendu dans ce territoire de la province. Il en ressort que les travaux de ce programme du chef de l'État n'avancent pas comme prévu. Ce programme tant attendu pour contribuer à réduire les inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain et la réduction de la pauvreté. Dans l'ensemble du territoire, rien n'est encore visible. Un malentendu opposerait la population locale au PNUD sur la délocalisation de certains ouvrages sur de nouveaux sites. Ici et là, la société civile locale dit se plaindre de ne pas être impliquée au déroulement des travaux. L'on déplore également la non-considération de la main-d'œuvre locale par les entreprises sélectionnées et qui ne maîtriseraient pas les milieux. Pour la société civile, le volet agricole avec la réhabilitation des routes de dessertes agricoles n'a pas encore démarré. Ainsi, la société civile recommande-t-elle une forte implication des communautés locales pour plus de visibilité de ce programme. Pour le PNUD de Sud Kivu, aucun changement ne doit intervenir dans le projet sans l'aval du ministère du Plan. Emmanuel Elamejou Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Tanger, au nord du Maroc, l'Observatoire des médias pour la pêche durable en Afrique, OMPDA, a lancé ce mercredi, en partenariat avec la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, un séminaire atelier axé sur la mer, les océans, la pêche et la biodiversité. Pendant 3 jours, les journalistes et communicateurs africains vont s'imprégner des conventions et accords internationaux se rapportant à la pêche au niveau continental et régional. Pour Abdelwaheb Benabou, peu de journalistes africains prennent part aux conférences internationales axées sur les questions des ressources halieutiques. Cela a une incidence sur la vulgarisation des conventions et accords réglementant les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans les pays africains. Il est dit au micro de Tati Mapoukou.
L'objectif principal de cet événement est de familiariser les membres de l'OMPDA avec les résultats et les implications des principales réunions internationales sur les ressources halieutiques qui ont eu lieu ces dernières années, notamment en 2022. De plus, il vise à valider un plan de communication afin de diffuser ces informations de manière cohérente et efficace. Ces rencontres internationales ont abordé des questions cruciales en rapport avec la gestion des ressources marines vivantes. Malheureusement, peu de professionnels africains de la communication ont pu couvrir ces événements et seuls quelques-uns ont eu accès à une documentation adéquate. En conséquence, peu de nos concitoyens sont informés des débats et des résultats de ces rencontres. Et même s'ils le sont, c'est généralement à travers des médias étrangers qui ne prennent pas suffisamment en compte nos spécificités et nos intérêts. Il est donc impératif que nous mettions en place des mesures pour améliorer cette situation.
Le chef d'état-major général des FARDC est arrivé ce mercredi à Kisangani. Immédiatement après son accueil par les commandants de la 3e zone de défense, celui de la 31e région militaire, ainsi que des officiers et sous-officiers en place, le lieutenant général Christian Tiwewe est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Il s'est ensuite entretenu avec l'état-major des FARDC à la 3e zone de défense. D'après nos sources, demain jeudi, il devra visiter les camps Lukusa et Baouma. En ce jour, au Nord Kivu depuis hier mardi, la sous-secrétaire adjointe de l'ONU en charge de la question des violences sexuelles commises en période de conflit a visité hier même l'hôpital Il Africa de Goma. Cette structure spécialisée dans le traitement des survivants des violences sexuelles fait face à plusieurs difficultés présentées à Madame Pamela Paten, notamment la prise en charge des femmes victimes de viols, mais aussi de leurs enfants acceptés difficilement dans la famille. C'est comme l'explique ici le docteur Kaatwa Kiringa Serge, médecin directeur de Il Africa, au micro d'Ale Wandimoyi.
Actuellement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'appui pour prendre en charge les survivants des violences sexuelles, notamment des enfants issus du viol, qui ont vraiment beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas acceptés par la maman d'abord elle-même, mais aussi dans les familles où la maman vit, encore accepter un enfant, c'est un problème. Mais aussi, les mamans, vous voyez, la plupart des survivants de violences sont démunis. Ils ont un niveau d'éducation bas. Sur le plan économique, leur famille n'est pas suffisamment appuyée. C'est ainsi que cette opportunité d'avoir Madame Pamela ici chez nous, c'est l'occasion de présenter ces défis, voir comment réinsérer, pas seulement la maman, mais aussi avec elle, l'enfant issu du viol. Donc si on ne prend pas en charge cet enfant-là dès la naissance, nous exposons la communauté quelque part.
Au Nord Kivu, condamnation à la peine capitale hier mardi d'une femme reconnue coupable de meurtre d'un enfant par le tribunal militaire des garnisons de Goma. La condamnée venait d'être arrêtée le week-end dernier par les services de sécurité dans le quartier Mugunga, au sud de la ville. Les habitants de ce quartier et les organisations de protection des enfants saluent la décision du tribunal dans la perspective de décourager d'autres potentiels criminels. Le point avec Gabriel Wamenya.
Marisa Françoise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est condamnée à la peine de mort. Elle était inculpée pour 4 chefs d'accusation, entre autres l'enlèvement, le meurtre, la tentative de meurtre et l'association des malfaiteurs. Pour la petite histoire, la condamnée avait intercepté la victime Justine Nsabimana, âgée de 8 ans, et son frère Blaise Nsabimana, 10 ans, alors qu'ils revenaient tous de l'école. Marisa Françoise les a embarqués par ruse sur une moto avant de les conduire sur les lieux du supplice en brousse dans le groupement Rusayo, en territoire de Nyiragongo. L'un d'eux, le rescapé frère de la victime Justine Nsabimana, affirme que la condamnée leur avait tous bandé les yeux avant de coucher brutalement sa sœur par terre en lui asséna une grosse pierre dans la tête. L'infortuné est décédé sur place après avoir poussé des jets. gémissements, a affirmé son frère Blaise Nsabimana. Nsabimana précise qu'il est resté immobilisé, yeux bandés toute la journée et tard dans la soirée, il a été emmené près d'une toilette où la bourrelle tentait en vain de le jeter dans les latrines. Rappelons que le corps de la victime Justine Nsabimana est toujours gardé à la morgue de l'hôpital militaire de Goma. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
À Kinshasa, la coalition nationale des associations de lutte contre les grossesses non désirées plaide pour la dépénalisation de l'avortement en RDC, conformément au protocole de Maputo. Devant la commission genre femmes, familles et enfants hier mardi à l'Assemblée nationale, cette coalition a rappelé que l'avortement constitue à ce jour la deuxième cause de mortalité avec 30% des décès chez les femmes. La présidente de la commission genre estime qu'il faut adopter et harmoniser la législation congolaise aux instruments régionaux et internationaux dans les domaines. Les détails avec vous Michel Kifindangoy.
Au cours d'une séance de travail avec la commission genre, famille et enfants, le coordonnateur de la coalition nationale de lutte contre les grossesses non désirées plaide pour que le protocole de Maputo soit pris en compte en RDC afin de dépénaliser l'avortement.
Celui qui avorte et la personne qui se fait avorter est condamné selon l'article 165 et 166 du code pénal de servitude en 15 ans pour l'autre et 5 à 10 ans pour certains. Et nous avons en même temps le protocole de Maputo qui autorise l'avortement sous certaines conditions.
La présidente de la commission genre, famille et enfants évoque la nécessité d'harmonisation des lois congolaises aux textes internationaux afin de mettre fin à la mortalité liée aux avortements clandestins. Christelle Vuanga.
Voir que beaucoup de femmes meurent parce qu'elles vont chez des charlatans qui utilisent des produits chimiques ou indigènes pour les faire avorter, alors c'est une interpellation de la part de nous, élus du peuple. C'est pour ça que normalement les textes locaux doivent s'adapter avec les instruments juridiques que nous ratifions, dûment ratifiés à l'étranger.
D'après des enquêtes effectuées à Kinshasa et au Congo central, plus de 30% des décès parmi les femmes sont dus aux avortements clandestins.
Donner du sang, c'est le plus beau cadeau qu'un individu puisse donner à son semblable humain. Déclaration faite ce mercredi par le docteur Emmanuel Amissi, responsable du centre de transfusion sanguine au sein de la division provinciale de santé antenne de Butembo au Nord Kivu. C'est à l'occasion de la célébration ce mercredi 14 juin de la journée mondiale du donneur de sang. D'après lui, le besoin reste énorme au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région qui impacte négativement la collecte de sang. Il en profite pour lancer un appel aux volontaires afin de sauver des vies. Docteur Emmanuel Amissi est au micro de Grévis Salomou.
Les besoins restent toujours énormes par rapport aux dons de sang. Nous avons plus d'une dizaine de zones de santé. Dans ces zones de santé, il y a des structures qui transfusent. Il y a assez de malades qui ont besoin du sang. Jusque-là, on n'arrive pas à couvrir à 100% les besoins. La situation sécuritaire impacte négativement à ce qui concerne les dons de sang. Il y a des blessés qui arrivent et qui sont internés dans différents hôpitaux en place et qui ont besoin de sang. Il y a aussi les collectes mobiles de sang qui ne sont pas réalisées dans certaines zones de santé suite à l'insécurité. À toute la communauté de venir faire comme les autres. Aujourd'hui, ceux qui sont hospitalisés ne savaient pas qu'un jour ils seront malades. Ils se sont retrouvés sur les lits de l'hôpital. Donc, ce n'est pas une affaire d'une certaine catégorie déjà. C'est une affaire de nous tous. Le don de sang est un acte de charité, acte d'amour. Si quelqu'un fait son don de sang, c'est une vie qu'il veut sauver. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut donner à son semblable humain.
Soulignons qu'au moins une quarantaine de personnes ont donné volontairement leur sang ce mercredi au cours d'une cérémonie organisée à cette fin à l'antenne de Boutembo du centre de transfusion sanguine.
Actualité internationale.
Au moins 303 morts. Le bilan de la secte de Paul Mackenzie au Kenya ne cesse de grimper. Hier mardi, 19 nouveaux corps ont été exhumés de la forêt de Sakaola, non loin de la ville côtière de Malindi. Au Nigeria, au moins 103 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi vers 3h du matin. La plupart des victimes, dont des enfants, rentraient d'un mariage dans le village d'Ekboti, dans l'est du Niger.
L'invité.
L'invité de ce journal est le responsable du centre de transfusion sanguine de Beni, au Nord Kivu. Docteur Vianney Kambere dénonce l'absence de banques de sang dans plusieurs zones de santé de cette contrée. C'est à l'occasion de la célébration ce mercredi 14 juin de la 19e journée mondiale du donneur de sang. Docteur Vianney Kambere s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Docteur Vianney Kambere, bonjour.
Bonjour, monsieur Martial Papimukeba.
Quel sens donnez-vous à la journée mondiale du donneur de sang?
C'est pour beaucoup plus remercier et honorer toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à pouvoir donner de leur sang pour permettre à ce que les autres puissent continuer à avoir la vie. Parce que dans le sang, nous pouvons avoir soit le plasma, soit les culots globulaires, ou soit même les plaquettes sanguines. Et ce sont des produits qu'on donne aux gens lorsqu'ils sont vraiment en déficience et que sans ce produit-là, on risque de perdre la vie. Alors il faut donner parce que les patients arrivent régulièrement dans les hôpitaux et il faut arriver à réaliser cet acte le plus souvent possible parce que à chaque jour, on sait toujours qu'il y a des difficultés, des problèmes qui nécessitent à ce qu'on recourt à des transfusions.
Est-ce que dans la région de Béni, il y a souvent une forte demande en produits sanguins? Et si oui, comment vous vous y prenez?
Comme vous le savez très bien que dans la contrée, se vit beaucoup de problèmes avec des plaies par arme à feu, les plaies par arme blanche. Tout cela à cause de l'insécurité et les actions terroristes qui se passent dans la contrée. Alors le centre de transfusion ici essaye tant soit peu à donner des secours à toutes les formations sanitaires qui essaient de prendre en charge les patients qui arrivent là-bas. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a aussi une forte endémicité palustre et le paludisme provoque assez souvent des anémies, surtout chez les enfants, qui nécessitent aussi avoir des produits sanguins. Au-delà de ça, il y a l'obstétrique avec les maternités, là où on peut retrouver les gens qui accouchent dans des conditions difficiles et qui, par moment, nécessitent de recevoir des produits sanguins. Malgré tout ça, le centre de transfusion essaye de se battre, de faire de tout son mieux, grâce à ces donneurs qui fréquentent la structure pour venir donner de leur sang. Et le centre essaye de qualifier ce produit sanguin pour le rendre disponible maintenant à différents hôpitaux autour de nous. Nous avons encore du chemin à parcourir parce que pour l'année 2022, nous attendions à distribuer plus de 7200 unités de sang, mais nous sommes arrivés difficilement à rendre disponible environ 6000 unités de sang aux différentes formations sanitaires. Surtout que nous avons encore des zones de santé entières qui ne disposent pas de banque de sang. Et là, on a encore ces personnes qui continuent à faire des transfusions à chaud en prélevant localement avec tous les risques de pouvoir se partager des maladies. Vous savez que dans les contextes d'insécurité, la transmission des infections transmissibles par le sang, elle devient aussi grande parce que avec l'insécurité, les déplacements massifs des populations, il y a beaucoup la prévalence des infections. Elle augmente parce que on ne contrôle pas grand chose.
En termes de statistiques, quelle est la catégorie des malades qui exigent souvent une transfusion sanguine dans la région de Béni?
Il y a un grand nombre de ceux-là qui ont eu des traumatismes, soit par arme à feu ou soit par arme blanche. D'autres, à cause des explosions, vous avez appris ce qui s'était passé, par exemple, vers la frontière à Loubiria, lorsqu'il y a eu explosion d'une bombe en pleine église, on a eu à recourir à des transfusions pour sauver quelques blessés.
Quels sont les défis auxquels vous faites face et les stratégies que vous mettez en place pour répondre aux besoins des hôpitaux et structures sanitaires dans la région de Béni?
Le premier, c'est celui de la mobilisation de la communauté aux dons bénévoles de sang. Il y a nombreux encore qui ne s'adonnent pas à cette exercice, cet acte de charité. Mais au-delà de ça, nous avons encore aussi d'autres défis, c'est celui de l'approvisionnement. Avec l'insécurité qu'il y a, la mobilité, elle devient aussi réduite. Et au-delà de ça, même pour nous approvisionner en intrants, ça devient difficile. Le plus souvent, c'est à partir de la ville de Goma, où nous avons le centre provincial qui essaye aussi de nous ravitailler en différents intrants. Comme la route, elle est aussi bloqués à cause de l'insécurité, nous avons difficile à trouver les intrants. Il faut utiliser maintenant la voie aérienne, ce qui augmente encore le coût de ces charges-là. Alors, le grand défi reste aussi celui des financements. Parce que comme nous n'avons pas un partenaire qui essaie de nous accompagner pour nous financer, c'est la population elle-même qui devra encore prendre en charge le coût de tout ce que nous sommes en train de réaliser.
Docteur Vianney Kambéré, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité, le responsable du centre de transfusion sanguine de Beni, au Nord Kivu, Dr Vianney Kambere, s'entretenait à Beni avec Martial Papi Moukeba. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.